Dieu suscite la confiance. Prédication de Hank Moorman au sujet de Marc, chapitre 11, verset 22. Je voudrais commencer par lire Marc, chapitre 11, verset 22, où Jésus dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera accordé. Ce texte est très connu. Il y a quelques années, je l'ai même souligné dans ma Bible. Croire est aussi faire confiance. Tout le monde sera d'accord si je dis que tout commence par la foi. Cela vient de notre éducation chrétienne. Et c'est ainsi que nous distinguons les croyants des incroyants. Ceux qui croient sont appelés croyants. Et à l'inverse, ceux qui ne croient pas, les incroyants. Je parle bien entendu de la foi en Dieu. On pourrait dire que c'est la caractéristique essentielle d'un chrétien. Avant même le fait qu'il fréquente une église ou qu'il possède une Bible. Car tout commence par la foi en Dieu. Avoir cette foi, c'est au moins croire que Dieu existe et que Jésus-Christ est son Fils. Ensuite, les opinions peuvent diverger. Comment est Dieu? Comment est Jésus-Christ? Les réponses à ces questions peuvent être très diverses, mais il s'agit toujours d'avoir la foi. Souvent, la foi est une chose tellement naturelle, tellement allant de soi, qu'on ne la remet plus en question. C'est la base de notre existence. On vit sa vie de tous les jours sans se poser la question de savoir si on croit encore. Ce n'est pas vraiment automatique, mais presque. Jusqu'au moment où les problèmes s'amoncellent. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Dis à cette montagne de se jeter à la mer. Quand les choses vont mal, la plupart des chrétiens pensent qu'ils doivent mettre leur foi en mouvement. Nous avons été éduqués comme cela. Nous pensons alors que nous sommes attaqués par le diable et que nous devons faire face, que nous devons retrousser nos manches spirituelles et faire en sorte de maintenir notre foi. Alors, nous nous approprions dans la foi toutes les promesses et les paroles de notre Seigneur. Et c'est certainement notre attitude lorsque les difficultés sont grandes comme des montagnes, comme des maladies graves, par exemple. Alors, on peut penser devoir gonfler sa foi à bloc et miser le tout sur le tout. Car sinon, on pourrait bien aller à la catastrophe. Mais si malgré cela, on n'obtient pas ce que l'on a prié, alors on se demande si on a eu trop peu de foi, ou bien si on a cru de la mauvaise façon. Et c'est souvent ce que d'autres chrétiens nous disent. Comme cela est triste. Peut-être est-ce parce que nous n'avons pas assez de foi, de la foi dont parle Jésus. Je veux dire la foi qu'on oppose à l'incrédulité. Nous connaissons l'histoire du jeune homme possédé, de Marc, chapitre 9, verset 14. Là, les disciples se demandent pourquoi ils n'ont pas pu obtenir la guérison de ce garçon. Et Jésus leur répond « À cause de votre incrédulité ». On pourrait donc appeler les disciples une race incrédule. Et Jésus se demande même combien de temps il pourra encore supporter ces incrédules. Mais la race incrédule, ce ne sont pas des humains, ce sont des esprits malins dans le monde invisible. Jésus les appelle la race incrédule. L'incrédulité peut aussi être une foi, mais alors la foi qui va dans le sens opposé, celle qui va dans le sens d'incapacité, de malheur, de manque d'amour, d'inconsidération. Elle va donc dans le sens de tout ce qui est mauvais. Mais cette incrédulité est aussi une force. D'ailleurs, Jésus dit qu'elle ne sortira pas en y opposant simplement la force spirituelle des disciples. Parce que la foi des disciples n'est pas si forte. Ils n'ont qu'une petite foi. Est-ce grave de n'avoir qu'une petite foi? Non, pas du tout. Car Jésus n'a-t-il pas dit « Si vous aviez la foi d'un grain de moutarde, cela suffit. » Un grain de moutarde, c'est tout petit, mais cela contient un germe. Donc, il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt de la qualité de notre foi. Il faut que notre foi soit telle qu'elle puisse opposer quelque chose à la race incrédule. Et comment le fera-t-elle? C'est en priant et en jeûnant. En priant et en jeûnant, notre foi deviendra ferme et profondément enracinée. Et ainsi, nous nous rapprocherons de Dieu. L'image que nous avons de Dieu est aussi déterminante pour notre attitude. Si nous pensons que Dieu dit aux croyants « Voici mon évangile, voici les vérités de mon royaume, et maintenant c'est à vous de les réaliser par la foi. » Alors, c'est comme si Dieu regardait à distance pour voir comment nous allons nous débrouiller. Et comme si Dieu est plus ou moins déçu de nos prestations, de ce que nous réalisons par la foi. Si telle est notre conception de la foi, alors croire est pour nous une sorte de prestation de force. Avons-nous suffisamment de foi et de force spirituelle pour faire la volonté de Dieu, pour réaliser sa parole et pour vaincre l'ennemi? Alors, l'évangile est une compétition. Croire est une très bonne chose. Et pour certains, croire n'est pas différent de faire confiance. Mais pour d'autres, l'idée de croire a quelque chose d'une prestation. Et alors, cela peut devenir un joug, une charge. Nous pensons que nous devons croire. Sinon, nous allons déplaire à Dieu. Moi, je voudrais plaider pour une autre conception de la chose. Je vais déplacer le point focal. Je vais dire que c'est Dieu qui croit et nous, nous lui faisons confiance. Et c'est mon point de départ. Dieu croit en nous. Et il veut que nous lui fassions confiance. Nous lui faisons confiance et nous nous confions en lui. De cette façon, on retourne les rôles. Et cela nous donne du repos. Et c'est exactement le but de l'évangile, n'est-ce pas? Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Dans le Nouveau Testament, on rencontre très peu le mot « confiance ». Mais on rencontre très souvent le mot « foi ». Dans l'Ancien Testament, par contre, c'est exactement le contraire. Surtout dans les psaumes. Dans aucun autre livre biblique, le mot « confiance » s'y lit autant de fois. Vous connaissez sans doute « Confiez-vous en l'Éternel ». Et aussi « Confie-toi en l'Éternel, c'est lui qui agira ». Heureux celui qui place en l'Éternel sa confiance. Et dans Proverbe chapitre 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ou encore, si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Il y a une multitude de textes qui parlent de la confiance à mettre dans notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a remplacé ce mot par foi, mais c'est la même chose. Et ce mot signifie aussi fidélité, fiabilité et aussi garantie. En fait, ces choses s'appliquent plus à Dieu qu'à nous. Si on prend le mot « foi », on pense à une chose que nous devons faire, c'est-à-dire croire et avoir confiance. Mais si on pense à la signification de ce mot, c'est-à-dire à la fidélité et la fiabilité, ce mot ne parle pas tant de nous, mais surtout de Dieu. C'est Dieu en qui on croit, en qui on met sa confiance, qui est fidèle. Et fiable. La garantie, c'est aussi une chose qui nous parle de fermeté, d'assurance et de protection. Ce mot est d'ailleurs apparenté au mot forteresse. C'est notre Dieu qui est une forteresse, où nous sommes en sécurité. Dieu est celui qui génère la confiance auprès de nous. C'est Dieu qui suscite notre foi. Vu de cette façon, ce n'est plus à nous de prester la foi. Et plutôt que d'édifier notre foi suffisamment nous-mêmes, il s'agit d'apprendre à connaître celui qui suscite la foi. Parce que plus j'apprends à le connaître, plus la confiance et la foi s'éveillera en moi. Je ne dois donc plus édifier ma foi moi-même, car elle est générée par Dieu. Je trouve ce mot merveilleux, générer, susciter la foi. Il est donc bien plus important d'apprendre à connaître Dieu toujours davantage. Il y a tellement à croire. Est-ce que je crois tout cela? Est-ce que je crois de la bonne manière? Alors, on peut jeter tous ces manuels qui dictent les 7 pas vers la foi ou vers la guérison, etc. Où on se demande si on est bien dans la bonne direction et où on pense que si on ne fait pas exactement bien, cela ira mal. Mais Jésus ne travaille pas ainsi. Lorsque les contemporains de Jésus entendaient ce mot que nous avons traduit par « foi », je crois qu'ils entendaient surtout qu'on parlait d'une des propriétés de Dieu. Ils n'entendaient pas en premier lieu l'appel à mettre leur foi en mouvement, mais ils entendaient l'annonce de la fiabilité de Dieu et de l'assurance qu'il offre. Bien sûr, Jésus est venu apporter la vérité et c'est à nous à y accorder foi. Mais il est plus facile de croire quelqu'un qu'on a appris à bien connaître. Alors on peut lui faire confiance. C'est aussi simple que cela. on ne croira pas les paroles de quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Croire ou ne pas croire, cela a tout à voir avec la relation constante avec la personne qui parle. Il s'agit d'être familier avec la personne qui parle. Plus encore, être en totale confiance avec cette personne. Comprenez-vous ce qu'est la race incrédule? Ce sont des puissances ennemies qui veulent faire croire dans le sens du malheur et du non-amour. Et cette race-là, elle ne sort que par le jeûne et la prière. Jeûner et prier, ce n'est rien d'autre que consolider notre relation avec notre Père. Prier, c'est rechercher Dieu dans le silence. Isolons-nous dans notre chambre intérieure, comme dit Jésus. Cherchons Dieu dans le secret. Jeûner, ce n'est rien d'autre que se séparer de ce qui peut nous détourner de la prière. Pour certaines personnes, cela signifie en effet ne pas manger. Et cela est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Jeûner, c'est se détacher des choses de ce monde pour s'approcher de notre Père. Jésus nous a fait connaître Dieu comme un Père. Et à l'époque, c'était révolutionnaire, Dieu comme Père. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a voulu lapider Jésus. Plus encore que pour la doctrine qu'il apportait. Car on ne supportait pas de l'entendre appeler Dieu son Père. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 5. Verset 18. Un père ne dit pas à ses enfants « Croyez suffisamment en moi ». Non, un père dit « Faites-moi confiance, je suis là pour vous ». Et mieux encore, un père ne dit pas cela, mais il le fait. Ainsi, on peut se débarrasser d'une manière de croire qui ne rend pas libre, mais qui est une charge, qui pèse comme un joug. Alors, on n'aura plus de discussion sur ce qu'il faut nécessairement croire ou ce qu'il ne faut pas croire. On ne devra plus argumenter avec des versets bibliques pour prouver qu'on a la bonne réponse. Au contraire, il faut s'orienter sur Dieu comme Père. Et c'est cela qui nous rassemble. Ainsi, on pourra parfois se dire, nous avons des vues différentes sur certaines choses, mais cela n'a pas d'importance, parce que nous sommes frères et sœurs, et nous avons un même Père. Bien sûr, il peut arriver qu'on diverge tellement sur des points essentiels qu'il est préférable de se séparer avec amour et respect. Cela peut arriver. Mais alors, continuons à nous bénir mutuellement. Parce qu'il se peut que nous montons à la même montagne, soit sur des versants différents, mais au sommet, nous allons nous rencontrer. Laissons le jugement à Dieu. Ne nous tracassons donc pas de savoir si nous croyons de la bonne manière. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Si tu ne crois pas ceci, tu donnes une gifle à Dieu. » Quel dommage de parler ainsi de Dieu. Je pense alors à Moïse qui frappait le rocher pour en faire jaillir l'eau. Nous pensons « Dieu l'a dit ». Et c'est à nous à le réaliser, même par la violence s'il le faut. Certains pasteurs ont employé ces méthodes. Sans doute, les intentions étaient bonnes. Mais quelle terrible image de Dieu qu'ils ont donnée là. Elle n'a rien à voir avec la réalité de Dieu. Car en lui, il n'y a pas de trace de ténèbres, et donc pas de trace de violence. Si nous osons retourner les rôles, c'est-à-dire laisser Dieu croire en nous, et nous lui faire confiance, alors nous serons dans le repos. Nous connaîtrons la grâce, qui est aussi le repos. En latin, la grâce, c'est gratia. Comme la grâce qu'on accorde aux coupables, qu'on gracie. Au 7e siècle, des moines irlandais sont venus apporter l'évangile à l'Europe continentale du nord-ouest. Et ils employaient le mot gratia, parce que le latin était alors la langue de l'Église. En anglais, c'est devenu grâce, grace. Et dans les autres pays du continent, ils ont employé un mot germanique qui signifiait repos, soutien, secours. Et je trouve ceci tellement beau. Au cours des siècles, on a un peu oublié le sens de ce mot. Quand on entend le mot « grâce », on pense que Dieu nous a pardonné et accepté, et qu'on n'a rien mérité, mais que tout est grâce. On met très fort l'accent sur « nous n'avons rien mérité ». C'est un peu comme si nous n'en valions pas la peine. Mais « grâce », c'est le repos. Nous avons un Dieu qui est notre Père et auprès de qui nous pouvons nous reposer. Grâce, c'est être à l'aise. On peut être à l'aise auprès de Dieu parce qu'on peut être soi-même auprès de lui. La grâce, c'est un secours, un soutien que nous donne celui auprès de qui nous pouvons être faibles. À Dieu, nous pouvons dire « Je n'en peux plus. Je ne sais plus comment faire. Seigneur, je cherche mon secours auprès de toi. Je veux m'appuyer sur toi et trouver un abri auprès de toi. » Et notre Père nous répondra « Oui. Je suis là pour toi. » Le sens primitif de grâce, c'est faveur. Dieu nous accorde une faveur. Et il le fait gratuitement, sans que nous ayons à lui fournir une contre-prestation. Nous sommes ses favoris, et il partage volontiers. Et aussi, il nous aime. Quand il nous voit, il dit « Ah, te voilà toi !» et son visage s'éclaire. Dieu est heureux de nous voir, parce que nous sommes ses favoris. Cela signifie aussi bienfait et affection. Toutes ces choses ne se méritent pas, mais on les reçoit. Nous avons parfois du mal à accepter cela. Parce que nous voulons toujours tout faire nous-mêmes. Nous voulons montrer que nous sommes capables et que nous méritons. Mais notre Père dit, « Mon enfant bien-aimé, assieds-toi, laisse-toi aimer. Sache que je t'aime et que tu as ma faveur. » En effet, nous ne l'avons pas mérité. Et c'est cela le centre de notre foi chrétienne. Dieu ne nous donne pas selon nos mérites, mais selon nos besoins. Et c'est infiniment plus que ce que nous méritons. je suis convaincu que ce qui distingue la chrétienté de toutes les autres religions, c'est la grâce. Chaque autre religion est totalement étrangère à la grâce. Ces religions demandent qu'on réalise un but final, d'une façon ou d'une autre, soit en accomplissant toutes sortes d'obligations, soit en se vidant soi-même de son contenu, jusqu'à en perdre sa propre identité. J'ai lu un article sur la conversion d'une jeune musulmane au christianisme. Elle raconte que l'essentiel de sa foi, c'était l'obligation de suivre toutes les règles et prescriptions de l'islam, comme prier 5 fois par jour, le visage tourné vers la Mecque, etc. Mais à son désespoir, elle n'y arrivait jamais. Dans beaucoup de religions, il s'agit d'obéir aux commandements. Et je suis également convaincue que cela est aussi le cas pour beaucoup de chrétiens. Pourtant, dans l'évangile de Jésus, il est dit « Voici le pardon, il est gratuit. Il n'y a rien à faire pour l'obtenir. » Jésus nous donne la justification et l'agrément de Dieu. C'est la force de la foi chrétienne. J'en suis convaincu. Ne l'oublions jamais. En lisant un compte-rendu d'une mission en Amérique du Sud, j'ai lu que la plus grande préoccupation des missionnaires, c'était d'enrayer la pauvreté, la drogue et les grossesses d'adolescentes. C'était ce dont ils s'occupaient le plus. Il est très louable de s'occuper ainsi des problèmes de notre prochain. Mais si ces choses prennent toute notre énergie et toute notre attention, alors nous oublierons le plus important, c'est-à-dire la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde dans notre lutte contre la pauvreté, la drogue et les grossesses d'adolescentes. Bien sûr, lorsque nous apportons l'Évangile, nous devons aussi regarder aux besoins naturels des hommes et les y aider. Mais ce que nous avons à donner au monde, c'est la grâce. C'est cela que le monde attend. Car dans le monde, tout tourne autour de la non-grâce, autour du contraire de la grâce. Le cœur de la grâce, c'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et c'est aussi le cœur de notre message. Ne nous laissons jamais enlever ceci. Jésus s'est sacrifié pour moi et pour tous, de sorte que nous n'ayons plus à prester et à nous justifier nous-mêmes. Nous ne devons plus mériter notre justification. Oui, la grâce, cela donne du repos et de la confiance en la bonté de Dieu. Il va de soi que Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Quel est le rôle de Dieu? Donnons à Dieu le rôle de celui qui croit. Car Dieu croit en l'homme depuis des milliers d'années. C'est pourquoi il leur a donné la liberté. Je vais le retourner. Dans le fait que Dieu leur a donné la liberté de choisir, il semble bien que Dieu croit en l'homme. Car s'il n'en était pas ainsi, il n'aurait jamais donné le libre choix à l'homme. Dieu les aurait programmés afin qu'ils ne fassent que ce qui lui plaît. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. parce que Dieu croit en l'homme. Dieu désire que les hommes disent de leur plein gré « Je choisis pour Dieu. Je choisis pour un tel Père. » Dieu croit en nous. Dieu croit en vous. Et je trouve cela tellement fort. Et quand j'y pense, cela me réchauffe. Savoir que Dieu croit en moi, cela me donne l'énergie pour continuer. Non pas dans mes prestations, mais dans l'image que j'ai de moi et de qui je suis. La sociologie a une théorie qu'on appelle la théorie du miroir. Cette théorie dit que l'homme devient ce que la personne la plus importante pour lui pense de lui. Donc, ce que pensent les personnes qui sont les plus importantes dans notre vie, ce que ces personnes pensent de nous, cela est déterminant pour notre devenir. Et ceci se vérifie dans la pratique, tant dans le sens positif que négatif. Par exemple, un enfant qui entend régulièrement « Tu ne vaux rien » et « Tu ne deviendras jamais quelqu'un de bien ». Cet enfant va se comporter de telle manière que la soi-disant prophétie va se réaliser. La personne la plus importante est souvent un parent ou un éducateur. Cela peut être un professeur, un grand-père, une grand-mère. Chacun a un ou plusieurs personnes qui sont très importantes pour lui. Et ces personnes sont déterminantes pour l'image qu'on a de soi. Et parfois, cela se passe de parole. Quelqu'un m'a dit un jour, « Mes parents étaient des indépendants et ils avaient un commerce. Ils devaient travailler très dur, pendant de longues journées. Et à cause de cela, ils n'avaient pas de temps à accorder à leurs enfants. Et j'ai grandi avec l'idée que je ne valais pas la peine qu'on m'accorde de l'attention. » Voilà donc le message que cet enfant avait retenu. Non pas parce que ses parents l'avaient dit, mais à cause de la situation de la famille. Un enfant ne comprend pas que ses parents ne peuvent pas faire autrement. Il remarque qu'on ne l'écoute pas, et il en conclut qu'il n'en vaut pas la peine. Il croit que personne n'est intéressé en lui, et il va se comporter de cette manière. Il sera gris, effacé, timide, avec une piètre opinion de lui-même. Et ceci n'a rien à voir avec la culpabilité. Ce sont simplement des choses qui arrivent. Il y a un tas d'autres variantes qui font qu'un enfant reçoit un certain message pour sa vie. Il arrive aussi que des personnes grandissent avec des attentes très élevées. Il arrive que des parents ou des éducateurs disent « Moi, je n'ai pas pu ou je n'ai pas eu l'occasion de faire des études ni de m'élever dans la classe sociale et j'attends que mon enfant le fasse. » Ceci peut devenir un joug pour cet enfant. Là aussi, il va agir en conséquence. Il sera toujours occupé à prouver qu'il ou elle satisfait à cette attente élevée. Il y a quelque temps, j'étais à la cérémonie d'adieu d'une personne importante qui prenait sa retraite. J'avais fréquenté ce monsieur pendant bien des années, et jamais je n'avais vu d'émotion sur son visage. Tout l'indifférait, apparemment en tout cas. Il était une personnalité très forte. Et lorsque, finalement, il devait prendre la parole, il évoquait son père décédé quelques années auparavant. Il disait « J'aurais aimé que mon père soit présent ici. » Et tout à coup, sa voix s'étrangla. Pour la première fois, je voyais de l'émotion. Et j'ai pensé que pendant toutes ces années, il s'était occupé à montrer qu'il répondait aux idéaux qu'il avait reçus de son père. Quelle tristesse de ne jamais pouvoir être faible et toujours être occupé à satisfaire à l'image de la personnalité inviolable. Ce que ces personnes importantes ont dit ou pensé ou montré, cela peut être déterminant dans la vie de quelqu'un. On peut porter cette image toute la vie durant, et elle va déterminer le comportement. Heureusement, cela est vrai aussi dans le sens positif. Je pense à l'histoire de l'évangéliste américain David Wilkerson et de Nicky Cruz. C'est une histoire vraie. Elle est décrite dans le livre « The Cross and the Switchblade ». Et peut-être connaissez-vous cette histoire. Un jour, l'évangéliste David Wilkerson organise un meeting d'évangélisation dans un quartier malfamé à New York. Il a invité des membres d'un gang de jeunes et leur chef, Nicky Cruz. À un moment donné, il demande à ces délinquants de faire la collecte. Et tout le monde pense que ce n'est pas une bonne idée et que l'argent sera volé. D'autant plus que pour apporter les paniers avec l'argent sur le podium, il fallait sortir de la salle et être pendant quelques instants hors de la vue. Mais, à la surprise générale, les jeunes délinquants arrivent sur le podium avec l'argent. Eh bien, je me dis que ces jeunes ont pensé, voilà quelqu'un qui a confiance en nous. Il croit que nous sommes capables de rapporter l'argent, nous qui sommes rejetés de la société. Et cette confiance a eu tellement de force que cette chose pratiquement impossible est arrivée. Et c'est ainsi que, plus tard, Nicky Cruz s'est converti. Je trouve cet exemple magnifique. Voilà le résultat de la confiance positive de quelqu'un. Focalisons-nous donc sur ce que le Père pense de nous. De cette façon, nous n'aurons plus à nous battre contre les fausses images qui nous ont été imposées par des êtres humains. Car continuer à se battre contre ces images pour prouver qu'elles sont fausses, c'est se battre contre des ombres du passé. Alors que nous avons reçu cet évangile qui nous dit « Voici quelque chose de meilleur, qui annule les vieilles images, qui rend sans effet les vieilles sentences. » Oublie le passé, tu as reçu quelque chose de meilleur. Ce qui est vieux disparaît quand le neuf grandit et devient plus fort. Nous ne devons pas prouver qu'ils avaient tort de penser de nous négativement. Le Père le sait, et lui pense beaucoup mieux à notre sujet. Nous ne devons pas prouver que nous sommes de bonne volonté. Le Père le sait, et il croit en nous. Et que croit-il? Selon moi, il croit qu'il peut se manifester en nous. Il peut se faire valoir en nous. La Bible dit, et il arriva en ces jours-là. Mais ça continue, il arrive en ces jours-ci. Et qu'arrive-t-il? Dieu arrive en nous. Dans la mesure où nous sommes conscients qu'il croit en nous. Je pense que les rôles doivent être inversés. Dieu dit « Je crois en toi ». À nous de vivre comme quelqu'un en qui on croit. Il n'y a pas de mot pour désigner une telle personne. Quand quelqu'un nous aime, on dit qu'on est des aimés. Mais quand quelqu'un croit en nous, on est. Il n'y a pas de mot. Mais vous pouvez en inventer un. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cet évangile si précieux. Comme je suis content, Seigneur, de ce que vous soyez venu. Vous nous avez tellement donné. Vous avez donné votre propre vie afin que nous puissions vivre par grâce. Seigneur, je suis heureux parce que nous arrivons petit à petit à voir cette vérité que vous êtes venu nous apporter. Nous voyons de plus en plus le Père tel que vous nous l'avez fait voir. Merci Seigneur, parce que nous pouvons nous y reposer. Merci, parce que la foi n'est pas une prestation, mais elle est une réalité vivante dans notre existence. Seigneur, quelle richesse de savoir que vous croyez en chacun de nous. Cela nous donne de l'énergie et de la force pour la vie. Et ceci est réellement une bonne nouvelle. Merci pour cela, Seigneur.